Chapitre 7. Le temps que Didi descende les escaliers et rejoigne le perron des Golding, son portable avait déjà sonné 3 fois et on l'avait arrêté 2 fois en chemin. Elle avait de bonnes nouvelles, des mauvaises et un mal de tête grandissant devant cette affaire qui évoluait à vitesse grand V alors qu'elle sortait d'une nuit blanche. Elle avait reçu l'ordre formel du commissaire adjoint de la brigade criminelle, autrement dit son patron, de terminer les constatations sur la scène de crime et de plier bagages avant que ses enquêteurs épuisés ne laissent immanquablement échapper des informations devant les reporters à l'affût et que toute l'affaire leur explose à la figure. Didi était bien d'accord. Boucler une enquête pour homicide vite fait bien fait n'était jamais une mauvaise idée. Malheureusement, elle avait comme l'impression qu'il n'aurait pas cette chance aujourd'hui. Elle descendit enfin le perron. Un rugissement monta de la meute de journalistes massés sur le trottoir d'en face. On aurait cru que le quarterback vedette venait de faire son entrée sur le terrain et non qu'une enquêtrice surmenée avait pointé le bout de son nez, songea-t-elle avec humour. D'instinct, elle leva la main. Nul besoin de faire barrage à une rafale de flash en cette radieuse matinée de novembre. Elle voulait simplement les dissuader de lancer des questions. Elle se dirigea droit vers la voiture de patrouille où elle avait vu la victime revancharde sagement assise sur la banquette arrière et découvrit Elle s'arrêta net. Un grand et bel homme noir. Non, un grand et sublime homme noir. Des pommettes parfaitement dessinées, un crâne lisse ponctué par un bouc impeccable, des yeux bruns frangés de cils d'une longueur invraisemblable. Il portait un manteau noir croisé, de ceux qu'affectionnent les cadres supérieurs et les agents du FBI. Sauf que, à y regarder de plus près, Didi n'était pas certaine que ce soit de la laine. On aurait plutôt dit un manteau en cachemire, porté avec une écharpe rouge bordeaux en soie, ce qui, sur le coup, lui parut parfaitement logique. Un homme aussi séduisant, avec un visage aussi intelligent et un regard aussi perçant, ne pouvait que porter un manteau à 1 000 $. Et sa voiture, celle qui n'était pas fournie par le FBI, devait être une Bentley. Elle se rendit compte un peu tard qu'elle le regardait fixement, la mâchoire pendante. Aussitôt, elle referma la bouche, redressa ses épaules douloureuses et, rêvant un peu, fit semblant d'être une pro. Il lui tendit la main lorsqu'elle s'approcha. « Docteur Samuel Keynes, victimologue, FBI. »« Ah ah !» Elle lui rendit sa poignée de main, qu'il avait ferme, forcément. « Et vous êtes ?» Il attendit patiemment sa réponse, avec des yeux d'une profondeur infinie, comme du chocolat fondu. Qui la regardait manifestement comme si elle était cinglée. « Commandant Didi Warren, » réussit-elle à articuler. « Superviseuse, à la criminelle, pour ce meurtre. Attendez une seconde. » Elle fronça les sourcils, reprit contenance. « Victimologue. On ne se serait pas déjà croisés ? Les attentats du marathon de Boston ?»«
Je suis intervenue auprès de plusieurs familles, oui. »
Didi hocha la tête. Ça lui revenait à présent. La police municipale avait prêté main forte au FBI pour l'enquête sur les attentats à la bombe d'avril 2013. Étant donné le grand nombre de témoins, Didi avait personnellement conduit plusieurs interrogatoires. Lors des briefings de groupe de travail, elle avait repéré le Dr Keynes, ainsi que plusieurs de ses collègues. Mais les circonstances ne se prêtaient pas à des présentations. Ils avaient tous trop à faire, entre l'horreur des attentats et une enquête d'une extrême complexité. « Vous connaissez notre témoin ?» demanda-t-elle en désignant leur victime et ou suspecte, toujours silencieuse à l'arrière de la voiture. « Flora ?» Interpellée, cette dernière leva les yeux. L'hématome autour de son œil commençait à foncer. Sa peau tournait aubergine et l'arête de son nez était rouge vif. Le pic d'adrénaline était retombé, observa Didi, et elle accusait sévèrement le coup. « Autant lui dire ?» répondit la fille, enveloppée dans la couverture bleue. Elle haussa les épaules sans chercher leur regard. « Si ça vient de toi, elle le croira peut-être, tandis que tout ce que je pourrais dire sera susceptible d'être retenu contre vous », suggéra obligeamment Didi. La fille la fusilla du regard. « Exactement. »«
Commandant Warren, » dit le docteur Keynes.
« Didi. »«
Didi. » Est-ce qu'on pourrait faire un tour ?
Dans un endroit plus tranquille. Inutile de préciser qu'il voulait s'éloigner des reporters. Le brouhaha était retombé, mais il ne leur serait que plus facile d'écouter les conversations. Didi s'accorda un instant de réflexion, puis désigna la maison des Golding d'un signe de tête. Elle grouillait de techniciens de scènes de crime, mais pas de journalistes. C'était ce qu'il pouvait espérer de mieux en matière de tranquillité. Elle prit les devants, et le docteur Keynes lui emboîta le pas.
« Beau manteau, » dit-elle. « Cachemire ?»«
Oui. »«
Écharpe en soie ?»«
Oui. » »«
Je dois dire que la police municipale n'est pas aussi généreuse. En même temps, je ne peux pas me vanter d'être docteur. »
« Mon grand-père était cireur de chaussures, » expliqua-t-il sur un ton dégagé. « Mais mon père est chirurgien cardio-thoracique, diplômé de Harvard. »
« Et vous, vous poursuivez l'ascension sociale de la famille au FBI ?» conclut Didi d'un air dubitatif.
Ils étaient arrivés à la porte d'entrée. Le docteur Keynes la tint ouverte, galanterie qui ne s'imposait guère sur une scène de crime.
« J'aime mon travail. Et j'ai la chance d'être à un moment de ma vie où je peux me permettre de faire ce qui me plaît. »
« Je commence à comprendre ce que la demoiselle de la voiture et vous avez en commun. Le don de ne jamais vraiment répondre à mes questions. »
La porte d'entrée donnait sur un modeste vestibule et l'escalier montait droit devant eux. Comme deux techniciens étaient en train de relever les empreintes digitales sur les boiseries et sur la rampe, Didi tourna à gauche pour fuir ce capharnaüm. Le bon docteur et elle se retrouvèrent dans un salon meublé d'un canapé, d'une table basse couverte de magazines de travaux pratiques et d'un panier de pelotes de laine. Il fallait croire que quelqu'un, sans doute Madame Golding, aimait le tricot. Ce petit détail chagrina Didi. Qu'est-ce que ça ferait à une femme connue pour ses écharpes tricotées main de devenir la mère d'un violeur présumé ? Didi s'arrêta devant la table basse. Il lui aurait paru trop intrusif de s'asseoir. Alors elle resta debout, et le docteur Keynes en fit autant. La petite pièce était beaucoup plus chaude que la rue. L'atmosphère étouffante.
Le docteur déboutonna son manteau,
dénoua son écharpe. En dessous, il portait un costume sombre. Tenue de travail classique, pensa-t-elle. Sauf que cette fois encore, la coupe et le tissu semblaient beaucoup plus luxueux que tout ce que pouvait porter l'agent moyen. « Docteur Keynes, » commença-t-elle, avant de marquer un temps pour voir s'il lui donnerait son prénom. Mais non. « Il ne m'est pas souvent arrivé de travailler avec des avocats des victimes, » reprit-elle finalement. « Mais si mon souvenir est exact, vous n'avez pas fonction d'agent. Quel est votre rôle au FBI ?»«
Je suis victimologue. Je rends compte au service d'aide aux victimes. » »«
Et vous êtes docteur ?»«
En psychologie. » »«
Quelle spécialité ?»«
Psychotraumatologie. » »« J'interviens essentiellement auprès des victimes d'enlèvement, depuis le rapt d'enfants jusqu'au cadre de l'industrie pétrolière kidnappée au Nigeria pour demande de rançon. »
Didi le regarda attentivement. « Je ne crois pas que Flora soit cadre dans l'industrie pétrolière. »«
Florence Dane », lui indiqua-t-il en la regardant comme s'il attendait une réaction.
Ce nom disait quelque chose à Didi. Vu la tête de Keynes, c'était normal. Et Neil, tout à l'heure, qui disait que le visage de cette femme lui était familier. Enfin, elle eut le déclic. Il y a 7 ans, cette étudiante de l'université du Massachusetts était partie en vacances de printemps à Palm Beach. Il a disparu. C'est le FBI qui a mené l'enquête. Elle s'interrompit pour réfléchir. À cause de cartes postales, c'est ça ? Que la mère avait reçues soi-disant écrites par sa fille, mais toutes postées dans des états différents. La mère est passée à la télé, elle a tenu plusieurs conférences de presse pour inciter le ravisseur à se manifester.
Il y a eu plus que des cartes postales. Il a envoyé des emails et même quelques vidéos. Contacter la mère pour la torturer était apparemment aussi gratifiant pour le criminel que l'enlèvement lui-même.
Didi tika. Florence Dane n'a été retrouvée que beaucoup plus tard,
au bout de 472 jours.
La vache ! Malgré elle, Didi est essoufflée. Très peu de victimes sont retrouvées vivantes après une aussi longue captivité. Et celles qu'on retrouve, un routier longue distance ? Demanda-t-elle. Qui se déplaçait pour son travail, transport de marchandises, c'est ça ?
Oui, Jacob Ness. Il avait fabriqué un coffre à l'arrière de sa cabine pour pouvoir garder sa victime auprès de lui en permanence. Il est fort probable que Flora n'ait pas été la première.
Il est mort, si je me souviens bien. Vos enquêteurs ont eu un tuyau. Les équipes d'intervention ont donné l'assaut. Florence en est sortie, mais pas Jacob Ness. Le docteur Keynes ne fit pas de commentaire. Typique d'un fédéral, se dit Didi. Elle n'avait pas posé de questions, donc il n'avait pas répondu. D'accord, constata-t-elle d'une voix énergique. Ma suspecte, Flora, Florence, est votre victime. À l'époque, elle a été enlevée par un taré psychopathe, et maintenant... Quoi ? Elle les traque jusque dans les bars ?
Il n'y a que Flora qui puisse répondre à cette question.
Et pourtant, elle s'y est refusée. Tout ce que je peux tirer d'elle jusqu'à présent, ce sont des théories sur les crimes de Devon Golding, pas sur les siens.
C'est le barman ? Celui qui l'aurait agressé ?
C'est la victime, rectifia Didi. L'homme qui hier encore était en pleine forme et qui aujourd'hui se retrouve carbonisé dans son garage parce que votre petite protégée est une spécialiste du feu chimique. Le docteur Keynes l'observa, détendu, les mains dans les poches de son manteau ridiculement luxueux.
Je suis sûr que vous avez déjà pris vos premiers renseignements.
Deux agents regardaient les images de la vidéosurveillance du bar. Ils ont pu confirmer que Devon Golding travaillait hier soir. D'après la vidéo et les témoins oculaires, Flora était aussi présente. Mais elle a passé l'essentiel de la soirée à danser avec un autre, Mark Zeland, lequel M. Zeland a d'ailleurs porté plainte peu après 3 heures du matin au motif qu'un barman du Tonic l'aurait agressé à la sortie de l'établissement.
Ça concorde avec les dires de Flora,
fit remarquer le docteur Keynes. La caméra d'un distributeur de billets à une rue du bar montre Golding entraînant Flora en la tenant par le bras. Était-elle consentante ? Les images ne permettent pas de trancher.
Et on en arrive à ce qui s'est passé ici.
Mais avec plaisir. Arrivons-en au garage des Golding.
Les premiers intervenants ont découvert Flora nue, les mains attachées devant elle.
Vous semblez bien au fait des détails ? Il ne releva pas et fit observer.
Ses poignets liés semblent indiquer une absence de consentement.
Désolée, mais avec le succès de 50 nuances de gris, je ne peux pas partir de ce principe. Dites-moi une chose, Dr. Keynes. Vous êtes le victimologue de Flora ou son psy ?
Je suis spécialiste de l'aide aux victimes, confirma Keynes sans ambiguïté. Pas psy.
Mais elle vous a appelé ? Pas sa mère ? Pas un avocat ? Vous ? Pourquoi ?
Il faudrait lui poser la question.
Il y a quelque chose entre vous, affirma Didi.
Non.
Oh que si ! Quand ça va mal, c'est vous qu'elle appelle. Et je suis prête à parier que ce n'est pas la première fois. Le docteur Keynes pinça les lèvres. Un si bel homme, pensa de nouveau Didi. Beau, riche, brillant. Que de croix à porter. Et pourtant son attitude était empreinte d'une sorte de gravité. Un fond de tristesse ? Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait chez lui comme une ombre qui l'empêchait de le haïr.
Vous devriez poser d'autres questions à Flora, dit-il finalement. Elle préfère la franchise. Une approche directe. Je pense que vous découvrirez. Elle se sent seule, commandant. Après le traumatisme qu'elle a subi. C'est une jeune femme tout à fait hors du commun. Très forte, mais aussi très isolée. Peu de gens ont survécu à une telle épreuve.
Voilà pourquoi, en cas de coup dur, elle se tourne vers la seule personne qui, pense-t-elle, la comprend, murmura Didi. Et ce n'est pas un membre de sa famille, c'est vous.
Vous devriez lui poser d'autres questions, répéta-t-il. Et ne traitez pas ses réponses par le mépris. Depuis son retour il y a 5 ans, Flora a fait du comportement criminel sa spécialité.
Vous m'en direz tant.
Si elle pense que ce barman a enlevé d'autres jeunes femmes, je ne serais pas surpris de découvrir que c'est le cas.
Vous intervenez auprès de la famille de Stacy Summers ? Demanda d'un seul coup Didi. Keynes fit signe que non. Et s'il fut surpris de ce brusque changement de sujet, il n'en montra rien.
Le dossier a été confié à Pam Mason, une collègue.
Est-ce que Flora vous aurait parlé de la disparition de Stacy ? Est-ce qu'elle a suivi l'affaire dans les médias ?
Contrairement à ce que vous semblez croire, Flora et moi ne sommes pas en contact régulièrement.
Seulement quand elle est aux mains de la police ? Suggéra Didi.
Vu ses hématomes, il y a tout lieu de croire qu'elle dit la vérité au sujet de son enlèvement par Devon Golding, constata le docteur Keynes sans s'engager. Alors, ce qu'elle a pu faire pour se défendre ?
Pourquoi refuse-t-elle les soins médicaux ? Si elle est tellement innocente, Pourquoi ne pas laisser un expert médical réaliser un examen officiel qui pourra corroborer ses dires?
Les victimes de viols et autres violences ont souvent une aversion pour le contact physique.
Vraiment? Ça expliquerait pourquoi elle s'est pointée dans un bar, envoyé plusieurs martinis et précipitée sur la piste de danse avec un parfait inconnu?
Je ne suis pas votre ennemi dans cette histoire, commandant Warren. Je m'efforce simplement de vous fournir quelques éclairages susceptibles de permettre une élucidation plus rapide de l'affaire.
Le fond de l'affaire est en quoi? Que votre victime se met en danger? Et dans quel but? Prendre un prédateur au piège? Sauver le monde? Se venger de ce qui lui est arrivé?
Le docteur Keynes ne dit rien. Didi perdit brusquement patience.
Vous voulez qu'on élucide l'affaire rapidement? Rendez-nous service à tous les deux et allez droit au but. Combien de fois Flora a-t-elle déjà fait ça? Combien de fois avez-vous dû répondre à un coup de fil en pleine nuit? Autant me le dire, vous savez que je peux chercher.
4.
4 fois? Didi n'en revenait pas. Flora Dane a déjà tué 4 fois?
Mais comment pas tuer? Corrigea fermement le docteur Keynes. C'est la première fois qu'elle recourt à une telle extrémité pour se défendre.
Vraiment? Les autres n'ont été brûlés qu'au premier degré? Elle leur a roussi le poil au briquet au lieu de déchaîner le feu nucléaire?
Flora a déjà été victime d'agressions par le passé. Si vous lisez les rapports, vous verrez qu'elle a réagi avec le niveau de violence approprié et n'a fait l'objet d'aucune poursuite.
Cette fille se prend pour Zorro? Votre amie, votre protégée?
Flora Dane est une survivante.
Flora Dane est une cinglée. Elle va dans ses bars pour y chercher les ennuis et elle les trouve.
Le docteur Keynes ne répondit pas. Bien vu de sa part, pensa Didi. Parce que franchement, à ce stade, qu'y avait-il à dire?
Je ne vais pas en rester là,
le prévint-elle sans détour.
La pièce n'était pas bien grande. Sa voix portait, et elle laissa faire. Peut-être qu'au cas par cas, on peut passer l'éponge sur la conduite de Flora. Mais devant ce scénario à répétition, avec tout le respect que je vous dois, docteur Keynes, le comportement de Flora Dane est un danger pour elle-même et pour les autres.
Je serai tout aussi clair, commandant Warren. D'après Flora, elle ne connaissait pas Devon Golding avant hier soir. Elle n'était pas là dans l'intention de le rencontrer et elle ne s'est livrée à aucune activité qui aurait justifié qu'il l'enlève à la sortie du bar et qu'il la ligote nue dans son garage. Quant à ce qui s'est passé ensuite, méfiez-vous de ne pas rejeter la faute du crime sur la victime. Flora ne m'appelle pas pour que je paye sa caution. Elle n'en a jamais eu besoin. Ce dont elle a besoin, c'est que je la raccompagne chez elle.
Didi le regarda ébahie.
Vous voulez rire? Elle vous appelle, vous? Un agent du FBI?
Un spécialiste de l'aide aux victimes.
Pour que vous la raccompagniez chez elle?
C'est plus compliqué que ça.
Vous voulez dire que tant qu'à être là, vous pouvez faire diversion auprès de la police?
Non. Tant qu'à la raccompagner chez elle, je peux faire diversion auprès de sa mère.